Bienvenue sur la page Bible Espoir. Nous sommes heureux de vous y accueillir et nous vous souhaitons une bonne écoute.
Première lecture, j'aimerais reprendre une partie de ce que nous avons lu tout à l'heure en introduction à notre rassemblement dans Psaume, le Psaume 19. Psaume 19, verset 8. La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs, ils éclairent les yeux. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais, ils sont tous justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Ton serviteur aussi en reçoit instruction pour qu'il les observe. Pour qui les observe, la récompense est grande. Voilà pour notre première lecture. Nous allons faire maintenant une autre lecture dans l'épître de Paul aux Romains, chapitre 7, verset 7. Romains 7, 7. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi, car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'avait dit « Tu ne convoiteras point ». Et le péché, saisissant l'occasion, produisit en moi par le commandement toutes sortes de convoitises, car sans loi, le péché est mort. Pour moi, étant autrefois sans loi, je vivais. Mais quand le commandement vint, le péché reprit vie, et moi je mourus. Aussi, ainsi le commandement qui conduit à la vie se trouva pour moi conduire à la mort. Car le péché, saisissant l'occasion, me séduisit par le commandement et par lui me fit mourir. La loi est donc sainte, et le commandement est saint, juste et bon. Ce qui est bon a-t-il donc été pour moi une cause de mort? Loin de là. Mais c'est le péché, afin qu'il se manifeste comme péché, en me donnant la mort par ce qui est bon, et que par le commandement, il devienne condamnable au plus haut point. Dernière lecture, très simple, très courte. Dans l'Épître aux Galates, chapitre 5, verset 1er. Galates 5, verset 1er. Alors, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Je relis ce texte. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Nous avons ce texte dans ces récits que nous avons lus, ce mot plutôt, où il est question de la loi. Et loi s'écrit avec un L, comme liberté. C'est ce que je voulais vous dire. Voilà pour commencer. Comprendre la loi de Dieu, c'est vivre. Et oui, parce que la loi de Dieu, eh bien, elle a été donnée pour que nous vivions. Et pourtant, Paul dit, quand je suis confronté avec la loi de Dieu, c'est cette loi qui me fait mourir. Curieux, hein? Et pourtant, nous affirmons que c'est vivre. Je voudrais prendre une image dès l'abord de notre méditation, qui est l'image de l'homme pécheur, qui pourrait être comparé à un boiteux, par exemple, ou à un estropié, ou tout autre handicapé physique auquel on a ajusté une prothèse. On voit malheureusement parfois des accidentés de la route ou des invalides de guerre. Dieu merci, on en voit de moins en moins parce qu'il y a il y a plus de guerre chez nous. Mais, fut au sortir de certaines guerres, eh bien là, ou dans certains pays encore aujourd'hui, ou même des enfants, eh bien on les voit là avec des bras en moins, avec des jambes en moins, enfin des prothèses, enfin ou avec eh bien ce genre d'appareillage. Dans le monde social, ce genre de prothèse qui est nécessaire pour la vie, finalement dans nos sociétés, on l'appelle code civil, on peut l'appeler je ne sais quelle autre réglementation ou quelle autre, eh bien là, gestion finalement de la société ou code de la route tout simplement. C'est une prothèse en quelque sorte. Et nous voyons que toutes les multiples législations existantes sont faites pour pallier à un problème. Parce que il n'y aurait pas de code de la route si tout le monde conduisait bien. Si tout le monde était gentil et que tout le monde respectait naturellement, eh bien, la loi, eh bien, on n'aurait pas besoin, finalement, eh bien, de tribunaux, de gendarmes, de policiers. On n'aurait pas besoin d'un petit livre qui s'appelle le Code civil, qui permet d'évaluer, qui permet aussi de sanctionner. C'est tout à fait nécessaire dans notre monde. Alors, c'est vrai que beaucoup récriminent contre la loi. On n'est pas d'accord. Ou contre les lois. Et pourtant, on est obligé de s'y soumettre. Mais il faut bien remarquer que dans une société, la loi est la superstructure qui permet que nous puissions vivre en paix, qui permet que nous puissions vivre, en quelque sorte, eh bien là, les uns avec les autres. Et on pourrait dire que c'est l'ossature de la société. Vous avez remarqué que le ministère de la Justice, dans nos gouvernements, fait partie des ministères d'État. C'est pas pour rien. C'est pas un petit ministère. Hein, c'est vrai que souvent la justice est décriée, mais bon, néanmoins, elle est là et elle doit être là. Autrement, ce serait pas possible de vivre. Imaginez-vous, s'il y avait plus de loi, s'il y avait plus de... Déjà, c'est pas toujours très, très calme, mais alors je peux vous dire que ça serait terrible. Parce que la loi garantit la paix, elle garantit la justice, et puis elle nous garantit la liberté. C'est à partir du moment où je sais certaines choses, que je vais vivre dans ces choses, et qu'à ce moment-là, eh bien, on va me respecter, et moi, je vais respecter l'autre. Et on fonctionne de cette manière, et heureusement. C'est ce qui s'appelle la citoyenneté. Enfin, on peut dire cela, si vous voulez, de cette manière. Une société sans loi, est-ce que ça serait possible? On a du mal à l'imaginer. Hein. De même, pour un invalide ou un infirme, ce que l'on peut appeler l'équipement palliatif. Vous voyez ce que je veux dire? Eh bien, qu'on lui adapte est source pour lui, finalement, de retrouver la marche, ou l'usage peut-être de son bras, quelque part qui lui permette finalement, eh bien, d'être un petit peu comme tout le monde, bien qu'il ne sera jamais comme tout le monde. Mais ça lui permet de toute façon de retrouver une certaine mobilité, une certaine aisance, et non une restriction et une contrainte. Parce que vous avez tous connu des gens qui portent une prothèse à un moment ou un autre. Hein. Et on s'aperçoit que ben, finalement, ils peuvent marcher ou ils peuvent faire encore des choses parce qu'on leur a adapté quelque chose. C'est ce qu'on appelle, en termes médicaux, l'orthopédie. Alors, je vais vous dire ce que ça veut dire, l'orthopédie. Écoutez bien, parce que c'est un mot grec. Orthopédie, ortho, qui veut dire droit. C'est-à-dire qui met droit, qui fait que les choses sont redressées, si on en quelque sorte. Et pédos, ça veut dire enfant. Donc, nous en tirons la conclusion que la loi, c'est un traitement de correction pour rectifier ce qui dévie, ou ce qui ne marche plus, ou ce qui ne va pas. En d'autres termes, c'est destiné à des mineurs moraux. Et finalement, aux yeux de Dieu, nous sommes tous des mineurs moraux. Et nous avons besoin, et Dieu a donné la loi, parce que nous ne savons pas, nous sommes considérés comme des enfants par rapport au bien et au mal. Ça, c'est clair, la Bible nous le dit. Et cette loi a donné en quelque sorte, cette notion de pédagogue, c'est-à-dire d'enseignement, pour que nous puissions marcher droit. On peut dire qu'à cause du mal, à cause de la nature adamique dont nous avons tous en nous-mêmes, la loi est un absolu. Parce qu'elle ne se contourne pas déjà dans la loi des hommes. Si vous passez un feu rouge et qu'il y a un monsieur avec un képi, vous allez voir ce que ça va donner, hein. Mais dans la parole de Dieu, c'est un absolu aussi. Tu ne tueras point, tu ne voleras pas, ce sont des absolus. Et vous allez voir qu'ils ne sont pas faits pour nous restreindre, mais qu'ils nous sont faits pour nous donner la liberté, la vraie liberté. Alors, nous pouvons dire à ce titre que quand nous avons bien compris le sens que Dieu a voulu donner à sa loi, à sa parole, parce qu'on va l'appeler comme ça, le mot « loi » est un petit peu rigide. Moi, je donnerais aussi le sens de « parole de Dieu », qui trouve une autre dimension avec l'Évangile. Mais néanmoins, on peut le comprendre comme ça. Eh bien, ça nous garantit notre liberté. La vraie liberté. Les propos de Paul sont sans équivoque. Lorsque nous l'avons lu tout à l'heure, il est parlé de la loi est-elle péché? Il se dit, mais la loi, est-ce qu'elle est un péché? Le commandement, normalement, conduit à la vie. Parce que cette loi, elle est bonne, elle est juste, elle est sainte. Et il le dit, la loi est donc sainte, le commandement est juste et il est bon. Il dira même, la loi est spirituelle. Mais il ajoute ceci, mais moi je suis. Il dit quoi ? Vendu au péché. Je suis mort dans mes péchés. Ça c'est la nature de l'homme. Alors qu'est-ce que nous avons fait de la loi divine nécessaire à, finalement à notre vie, à notre épanouissement ? Qui l'a exploité pour la détourner contre l'homme ? Et ça c'est une question que je pose aussi. Parce que la loi de Dieu, on en a fait quelquefois une arme contre l'homme. Pourquoi est-elle si contraignante ? Remarquez, on peut voir exactement la même situation dans la vie sociale ou dans la vie de nos nations. Une loi, à entendre peut-être les hommes du monde, eh bien, elle est faite pour être contournée. Vous avez entendu cela. Hein. On vous dira avec un sourire narquois, mais la loi, elle est faite pour être détournée. Ni vu ni connu, hein, mais attention. Hein. Quand on est vu et quand on est connu, c'est autre chose. Et heureusement d'ailleurs. Et heureusement. Alors, moi je vais me prêter ce matin comme Jésus le faisait avec une parabole. Des paraboles et des paraboles tirées de la nature. Et tirées des comparaisons, des exemples, et je voudrais donner un sens à notre réflexion à travers une inspiration des sciences naturelles. On pourrait peut-être parler un peu de biologie, mais je ne veux pas être très compliqué. Hein. Oui, parce que ça va nous aider à comprendre, et nous avons besoin de comprendre si quelquefois les choses sont assez difficiles à interpréter. Parce que c'est vrai que le monde spirituel est difficile à pénétrer, mais toujours est-il que Jésus a donné des paraboles pour que ça puisse être accessible. Et c'est pour ça que nous avons peut-être besoin parfois d'y recourir. Jésus l'a fait, je ne vois pas pourquoi les prédicateurs ne le feraient pas autant, pour la bonne raison que ce qui est important, c'est que nous comprenions ce que Dieu veut nous dire. Ça, c'est le but. Je ne vous apprends rien, mais je vous dirai que le corps humain est composé de chair, il est composé de muscles, il est composé d'organes, il est composé également d'une partie rigide de notre être, c'est-à-dire c'est l'ossature. Nous avons naturellement des os. La constitution osseuse est loin d'être un handicap, au contraire. Vous sentez vos os là ce matin ? À moins que vous ayez fait une chute. Alors là, vous allez les sentir, mais autrement, on les sent pas. Hein ? Ça, c'est la structure, c'est l'ossature. Donc, cette constitution osseuse est loin d'être un handicap, mais sans les os de notre corps, nous serions réduits à des créatures rudimentaires. Imaginez-vous un petit peu le tableau. tel que tout simplement le ver de terre ou la limace, qui elle n'a pas d'os et elle est flasque, elle est là sur la terre, elle glisse sur le sol. Enfin, vous allez me dire que c'est peut-être un peu tiré par les cheveux, mais toujours est-il que quand même c'est pour peut-être montrer aussi les choses, et quelquefois il faut aller un petit peu dans les comparaisons. Comme Jésus le faisait, il a pris des contrastes quelquefois qui étaient assez choquants. Si chaque partie molle du corps a sa fonction indispensable, ce que nous pouvons dire, c'est que la structure osseuse a aussi sa raison d'être. Et Job le dit, parce que ce que je veux vous dire, c'est dans la Bible, il dira ceci, « Tu m'as revêtu de peau et de chair, tu m'as tissé d'os et de nerfs. » Donc, voyez, l'homme de Dieu le reconnaissait. Et tout cela, ça vient de Dieu. Mais pourquoi ? Je vous dirais que Dieu a bien fait les choses quand il les a créées. Et il y a des raisons. Parce que nous sommes vraiment adaptés au monde dans lequel Dieu nous a placés. Dans la vie spirituelle, la partie consistante, la partie robuste, solide, dure, qui constitue que l'ensemble tient debout, je te parle bien maintenant dans la pensée spirituelle, c'est la loi de Dieu. C'est la parole de Dieu. Et Dieu a donné sa parole pour une bonne raison. Parce que c'est ce qui fait que finalement, eh bien, c'est ce qui permet, eh bien là, une certaine structuration, une certaine consistance, et on ne peut pas s'en passer. Et c'est ce que nous pourrions appeler l'ossature spirituelle du corps spirituel. On lui donnera peut-être un autre mot, on pourra parler d'armature. Ça, c'est la preuve du génie créateur. Et aucun matériau n'est aussi adapté aux exigences du corps humain tel que l'os. Et je voudrais vous parler des os. Ça vous dérange pas, non ? Hein ? Bon. C'est la structure la plus légère qui soit. C'est assez étonnant. Hein. 1/5 du poids de notre corps. Ouais. Sa fonction est précise. C'est protéger d'abord. Le crâne est fait avec des os. La cage thoracique est faite. Le le crâne pour protéger notre cerveau, parce que c'est quand même l'ordinateur. Hein, de... Et puis, il y a des parties fragiles, telles que le cœur, les poumons, etc., etc., et le bassin ainsi a sa fonction, donc une protection. C'est pour également porter et soutenir, par exemple, le bassin, j'en parlais tout à l'heure, la clavicule, hein, pour justement soutenir finalement cet ensemble. Les os sont capables, toutes les pressions ou dépressions les plus inouïes. Ils font ressort. Pourtant, c'est rigide, mais il y a une articulation qui fait que nous pouvons nous mouvoir et avec quelle facilité nous faisons des choses extraordinaires. Hein, de ce côté-là. Donc, ils font ressort. Vous remarquez par exemple un sauteur, comment il saute. Hein, il saute avec ses muscles, mais il saute aussi avec ses os. Hein. Il y a une pression qui se fait à ce moment-là, c'est tout un ensemble. Il dégage de la force. Vous avez vu le coup de pied d'un footballeur? Vous voyez le ballon qui part? Hein, ou le coup de main d'un tennisman, une force terrible, hein. Je ne sais pas combien va la balle d'une balle de tennis, comment, 200 km/h, et voyez, ouais, et ça dépasse, ouais. 200 km/h, ils ont dépassé la limitation de vitesse, il n'y a pas de problème. Nos os nous permettent les plus grandes tensions sans casser, soulever une lourde valise par exemple, et on ne casse pas quand on soulève une lourde valise, c'est fait pour ça. Ils peuvent être écrasés jusqu'à un certain point. Ils peuvent être disloqués. Vous avez vu les contorsionnistes de cirque? Eh, ils se mettent la tête derrière et puis... Moi, je ferais ça, je resterais noué. Hein. Ça, c'est pas possible. Ça, c'est sûr. Mais pourtant, tout se plie, tout se fait de cette manière. Et si je me permets d'insister, c'est parce que nous allons parler tout à l'heure de la loi de Dieu, ce qu'elle est capable. Ils peuvent être comprimés et ils remplissent un rôle essentiellement naturel. Et ça, on ne descend pas. Nous avons nos os en dedans. Mais vous savez que les tortues et les crabes, ils ont leurs os en dehors. C'est bizarre, ça. Hein, vous avez remarqué? Bah, si vous allez à la pêche un de ces jours, vous allez voir. Vous ferez la comparaison. Nous, les os en dedans. Et heureusement qu'on les a pas en dehors, parce que ce serait pas très beau. L'os est résistant, mais il y a une particularité, c'est qu'il est creux. Il est creux, l'homme a mis des millénaires pour découvrir ce principe en architecture. Pour ceux qui travaillent peut-être dans le bâtiment, vous allez comprendre, pour alléger les matériaux. Hein, quand on faisait dans l'Antiquité des colonnes, vous savez, des temples, c'était quelque chose de colossal. Mais maintenant, on peut faire des gratte-ciels qui montent à quelquefois 150 étages, enfin je ne sais pas, mais toujours est-il que et la façon de construire a complètement été révolutionnée depuis peut-être un siècle. Parce qu'on a trouvé le système, justement, le même système qu'il y a dans les os. Dieu avait pensé les choses bien avant. C'est pour ça que l'homme se dit « je suis en avance », mais on pourrait toujours lui dire « mais dis donc, t'es en retard de quelques siècles, ou de quelques millénaires, ou de quelques peut-être millions d'années ». Toujours pour dire, et toujours pour parler de Job, il nous dit « la moelle des os est remplie de sève ». Ouais. Pour parler justement des os. Ce vide intérieur est une formidable fabrique de globules blancs, de globules rouges du sang. Ouais, parce que Dieu se sert aussi de cela, on le verra. Et qui produit, il me semble, 1 milliard de cellules par jour, dans une personne qui est constituée normalement, qui est en santé. L'os est le support de la vie. Alors, on peut parler d'une étonnante, merveilleuse, époustouflante invention divine que le mouvement, que l'élasticité, et si je ne parle que du pied qui est fait de beaucoup d'os, hein, les phalanges du pied, etc., etc., eh bien le pied parcourt en moyenne dans une vie, alors si ça vous intéresse, 100 000 kilomètres, voyez, hein, et tout le reste du corps est porté par nos pieds, propulsé sur une si petite surface répartie harmonieusement. Alors je ne sais pas combien vous chaussez, du 36, du 44, du 58, non, ça n'existe pas le 58. Hein. Mais c'est quand même curieux que notre corps repose sur une surface. Vous vous rendez compte, la surface, si vous voulez, répartie par rapport à la plante de nos pieds, c'est quelque chose, et nous tenons debout en principe. C'est assez étonnant. Hein. Parce que c'est réparti en architecture de voûte, qui agit soit comme un ressort, c'est-à-dire un amortisseur, soit par flexion, les genoux par exemple, ou par pivotement, les chevilles. Enfin, ce sont des détails que je suis en train de donner, mais je le dis parce que j'ai encore autre chose naturellement qui va pouvoir nous servir de comparaison. On pourrait parler aussi de l'équilibre dû aux os, la beauté des formes du corps. C'est vrai que ce qui fait que la beauté, il n'y a pas seulement la peau, mais il y a aussi ce qui donne les formes. Et je peux dire que c'est un formidable agencement du Créateur. Et David le dira, « Mais Seigneur, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. » Alors quand vous vous regardez dans une glace en disant « Je suis pas beau, je suis laid ou je suis laide », regardez donc plutôt vers le Seigneur, il va dire « Mais tu sais, je t'ai créé. » Parce que tu ne sais pas tout ou tu n'as pas voulu réfléchir à tout. Mais pourtant, j'ai fait les choses d'une manière où tu puisses vivre et de sorte que tu sois aussi en bonne santé. Pour ça que quand on a la jeunesse, eh bien, ne gâchons pas notre vie. Puis même dans notre vie, ne gâchons pas notre existence en, eh bien là, faisant des fractures et des cassures. Il arrive parfois que nous ne respectons pas justement cette merveille et qui nous sert souvent avec beaucoup de discrétion et avec bien d'efficacité, et qui se fait remarquer que lorsque nous dépassons le seuil de tolérance, et c'est ce qu'on appelle justement la fracture. Ça fait mal une fracture des os, hein, parce qu'on en a quelquefois pour quelques mois, hein, ceux qui se sont fracturés les côtes, hein, c'est difficile, c'est dur. Alors, on pourrait multiplier naturellement et dire beaucoup de choses, mais que d'analogies, multiples avec l'ossature spirituelle qu'est la loi de Dieu. La parole de Dieu. Les os dans le corps humain ne sont pas faits pour nous encombrer. D'ailleurs, Dieu les a répartis pour que, finalement, eh bien, ils soient invisibles. Ils ne sont pas faits non plus pour nous limiter. Ils ne sont pas faits pour nous restreindre, mais Dieu les a tout simplement créés pour nous libérer. Ouais, Dieu les a faits pour nous libérer, que nous soyons libres. Quand nous arrivons à faire des gestes extraordinaires, et puis de la gymnastique ou autre chose, c'est pas pour nous restreindre, mais pour que nous puissions eh bien, faire des choses encore extraordinaires, et quelquefois nous sommes émerveillés, des capacités physiques de certains champions ou autres. Donc c'est une libération, pour notre total épanouissement. Je dis bien, c'est pour que nous puissions nous épanouir. Alors la loi, est-ce que c'est une carapace, ou est-ce que tout simplement c'est un avantage ? La parole de Dieu, est-ce que c'est une carapace, ou est-ce que c'est un avantage ? Est-ce que c'est une restriction, une limitation, est-ce que c'est une libération ? Et la question est posée maintenant. La réponse tient à la façon de comprendre et de vivre cette réalité. Tout dépend mon état d'esprit. Tout dépend comment j'interprète les choses. Comment je me laisse conduire par l'Esprit de Dieu. Parce que il y a une certaine conception dans les églises, mais je vous dirais qu'il y a une certaine conception de la loi aussi dans le monde et dans le monde non chrétien. Il y a des gens qui sont une conception très, très, très formelle de la loi. Robespierre en était un exemple, hein. Enfin, de sinistre mémoire, mais enfin, bon, c'était quand même ça. L'exercice du sport physique est fait au développement des muscles et des os, pour l'assouplissement. De même, la bonne compréhension pratique, et j'ajoute pratique, pas théologique, pratique de la volonté de Dieu, tend au progrès spirituel. Pas une régression, mais finalement un développement. Dieu a énoncé une seule et unique loi, mais qui comporte deux facettes, et c'est ces deux facettes-là que nous allons maintenant parler. Deux facettes. Le commandement intangible, c'est-à-dire le décalogue, les 10 commandements, si vous voulez, ou les commandements de la parole. Et puis, il a énoncé un terme qui n'est pas dans l'Ancien Testament, mais qui est dans le Nouveau, c'est la voie royale. Vous connaissez ? C'est Jacques qui le dit. La loi de Dieu, la voie royale. La loi parfaite, la loi de vérité, la loi de la vérité, dira, eh bien, Jacques. Deux aspects qui font que cette superstructure sur laquelle Dieu construit son Église, parce qu'il s'agit de l'Église, il s'agit de moi-même, mais il s'agit aussi de l'Église, peut avoir tantôt la robustesse, la dureté, l'inflexibilité de la loi la plus stricte dont Moïse a été le premier promulgateur, c'est-à-dire la lettre, ce qu'on appelle la lettre, et tantôt la souplesse, l'élasticité, le mouvement, la vie qui a fait que cette même loi rigide, comme le sont les os, devienne un principe de liberté. Et toute la question est posée à l'Église d'aujourd'hui, c'est-à-dire l'Église chrétienne, pas mi-juive, mi-chrétienne, pas à moitié Ancien Testament, à moitié Nouveau Testament, mais l'Église est essentiellement et se fonde essentiellement sur le Nouveau Testament, alors à ce moment-là, c'est un principe de liberté. Jésus a pris la loi et l'a accomplie, vous le savez, parfaitement en la spiritualisant. Et d'entrée, lorsqu'il rentre dans son ministère, il lance un message au monde entier qui subsiste encore aujourd'hui, c'est le sermon sur la montagne. Et il me dira, je ne suis pas venu abolir la loi, et il parlera d'un iota qui ne doit pas disparaître. Mais il le dit, je ne suis pas venu l'abolir, mais je suis venu pour l'accomplir. En d'autres termes, nous devons la comprendre, je suis venu pour lui donner sa vraie dimension spirituelle. Alors Jésus a pris cette loi, il l'a accomplie. Alors l'ossature a été rendue vivante, une loi morte comme dans l'Ancien Testament, parce que plus personne, finalement, eh bien, l'a pratiquée, ou quelque part, eh bien, c'était quelque chose d'une pesanteur, puisque les hommes en rajoutaient toujours, parce que la loi de Dieu avait été donnée, mais les hommes, les pharisiens entre autres, en avaient ajouté. La dîme du cumin, de la nette, et ceci et cela, et tu feras ceci et tu feras cela. Ils nettoyaient l'intérieur de l'extérieur de la coupe, mais bon, comprenez un peu tout le travail. Les hommes ont endurci, finalement, et cette loi devenait impossible. D'ailleurs, Dieu le dira, que la loi, finalement, ne pouvait sauver personne, puisque personne ne pouvait l'accomplir. 10 commandements, seulement 10, c'est pas grand-chose, 10 commandements. Une infraction à un seul, eh bien fait, finalement, que nous avons complètement annulé la loi sur les 10 autres commandements. Jean, chapitre 1 et verset 17, écoutez cette parole pour bien mettre les choses en place. Il est dit, la loi a été donnée par Moïse, mais écoutez, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Ça, c'est quelque chose de formidable. Et moi, je souhaite que les églises rentrent dans cette dimension. Et je crois qu'il y a beaucoup d'églises qui auraient besoin d'entendre ça, qui sont restées quelquefois sous un joug de pesanteur. Et on comprend. On comprend parce que les gens s'asphyxient. Et l'Église a besoin de rentrer dans cette dimension de liberté parce que la loi est venue par Moïse et nous ne sommes pas là pour dire le contraire. Mais la grâce, la vérité sont venues par Jésus-Christ. Autre comparaison pratique. Dans une construction, ce qui fait force de loi de solidité, ce sont différents éléments. Je parlerai de piliers de soutènement, de pierres d'angle, de poutrelles, de murs porteurs, de clés de voûte, et autre chose. Nous allons observer le premier aspect de la loi divine, sa rigidité nécessaire. Dieu l'a rendue rigide, et il y avait des raisons. Au premier abord, elle fait peur. Et quand peut-être nous-mêmes, nous avons eu notre première rencontre avec la parole de Dieu, l'Ancien Testament, on s'est dit, oh là là, attention, ça devient sérieux là. Ah oui, hein, c'est très rigide. Et quelquefois, ça peut encore continuer à faire peur aux chrétiens, ce qui n'est pas normal. Donc au premier abord, elle fait peur, elle inspire la crainte et proclame l'inaccessibilité. Quand on me dit, en quelque sorte, eh bien, tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas cela, quelquefois, je ressens, et Paul l'explique bien dans Romains chapitre 7, quand je veux faire le bien, c'est le mal qui est attaché à moi. Et il y a quelque chose qui se développe en moi en disant, eh bien, c'est la convoitise et c'est plus fort que moi et je le fais malgré tout. Et on comprend ce que ça peut générer naturellement au niveau de la conscience. La loi de Dieu me dit que c'est impossible. Oh, c'est possible, oui, c'est vrai, mais à un moment donné, dans la longueur du temps, il y a des choses qui sont véritablement très très difficiles. Ou alors nous allons le faire en nous conditionnant nous-mêmes dans notre volonté et nous allons devenir aussi durs que la loi. Et si nous sommes aussi durs que la loi, nous allons durs avec les autres. En disant, moi j'y suis arrivé, tu dois y arriver aussi. Pas de faiblesse, c'est pas toléré. Ça c'est quelque chose de terrible aussi. La loi que nous appellerons la doctrine, parce que c'est aussi cela, que nous appellerons ce matin la doctrine est une ossature, c'est en quelque sorte le squelette. Afin que l'ensemble tienne debout, oui, il faut une doctrine. Nous avons accepté une règle de doctrine lorsque nous nous sommes convertis. Hein, Jésus sauve, Jésus guérit, Jésus revient, Jésus baptise du Saint-Esprit, pour ne parler que des points essentiels, si vous voulez, mais il y a bien d'autres choses et c'est multiple. Ça, nous l'avons accepté. Mais nous voyons que cette doctrine est l'ossature, c'est le squelette. Afin que l'ensemble tienne debout et au centre s'y trouve la vérité. Et nous ne sommes pas là pour dire le contraire. C'est la vérité, nous la croyons, cette vérité. Elle nous fait vivre. Cette vérité, pour être crédible, doit être extrêmement ferme. Parce qu'une vérité qui n'est pas ferme, c'est une vérité que c'est vrai aujourd'hui et c'est faux demain. Alors à ce moment-là, on ne peut pas y croire. C'est un petit peu toutes les vérités qui existent dans le monde. On a un engouement pour une chose qui, on dit vérité, et puis finalement on s'aperçoit que c'est pas ça du tout. Une doctrine quelquefois politique que l'on proclame avec vérité avec un grand V, et puis on s'aperçoit qu'à l'usage, hein, c'est pas ça. Alors que cette parole que nous avons reçue, c'est la vérité, elle a été éprouvée, elle a été vérifiée, elle a été vécue, et on sait que c'est la vérité. Alors, il faut qu'elle soit ferme, cette vérité. Et il faut qu'elle ne change pas. Parce que si aujourd'hui on annonce par la parole de Dieu une chose et que demain vous entendiez le contraire, vous allez dire, ben où on en est rendu, hein. Donc elle ne change pas. On est d'accord là-dessus. Quand je me heurte à la doctrine biblique, c'est contre la partie dure, la partie sévère, immuable, inflexible, que je me cogne, en quelque sorte. Tous ces principes moraux et spirituels sont sans appel, parce que Dieu me dit, c'est comme ça, et il me faut les accepter sans discuter. C'est logique, puisque c'est la parole de Dieu. Je ne les discute pas, je n'ai pas à les remettre en cause. Je ne veux quand même pas remettre en cause la résurrection de Jésus-Christ. Je ne veux quand même pas mettre en cause, finalement, le principe de la foi. Et puis, que Dieu est saint, que Dieu est juste. Je dois les accepter sans discuter. Cette vérité est souvent rigide, elle est rébarbative parfois, mais absolument nécessaire compte tenu non seulement de la justice divine, mais avant tout de la condition humaine qui est la mienne, c'est-à-dire une condition de déchéance. Si nous n'avions pas ce germe de péché en nous et le péché en nous, il n'y aurait pas eu ça, naturellement. C'est pour ça que je vous ai parlé de palliatif tout à l'heure. Dieu, par la doctrine, m'amène à le rencontrer. Ouais. J'ai entendu la parole de Dieu, j'y crois. Et cette parole de Dieu m'a inspiré l'appel de Dieu, son amour et toutes sortes de choses. Mais il m'appelle à le rencontrer sur son terrain et pas le mien. C'est-à-dire son terrain, c'est sa parole, c'est la doctrine, c'est lui qui l'a dit. Mais pas sur le mien, je veux pas prendre la parole de Dieu et en faire un petit peu ma religion à moi. Parce qu'à ce moment-là, ça ne marche pas. C'est pas normal. Il m'appelle sur son terrain. La vérité de Dieu ne fléchit pas. Elle ne change pas, de toute manière. Mais elle dit. Elle affirme et elle dicte. Ça, c'est important. Elle me dicte les choses. On a l'exemple des 10 commandements, naturellement. D'où cette impression de rigidité qui crée le malaise. Et quelquefois, certains disent... Cette parole est dure. Ça vous rappelle quelque chose, les disciples, par rapport à Jésus? Cette parole est dure. Ouais. Alors pourquoi? On va essayer d'expliquer cela rapidement. Parce que c'est une affaire de foi. Pour que la confiance, puis ensuite la foi, s'établisse dans et pour un monde qui ne repose sur rien d'autre que sur du sable, parce que c'est bien cela finalement, Dieu a voulu, en donnant sa loi, que cette loi ait la qualité de robustesse et de fermeté de l'os. C'est-à-dire que ça ne bouge pas, c'est tout. Et c'est pourquoi la parole de Dieu a traversé les temps, a traversé les âges. Elle a été persécutée, on a brûlé la Bible, on a essayé de détruire finalement, eh bien, toute pensée divine et toute pensée évangélique ou toute pensée biblique, mais elle est restée encore là, et puis elle est toujours là, de toute façon. Parce qu'elle est résistante. C'est-à-dire, c'est une vérité qu'on ne peut ni tordre. Enfin, on peut la tordre, hein, ça c'est sûr, mais elle ne se tord pas. De toute façon, c'est dit d'une illusion. On ne peut ni la tordre, ni la courber. Plus la vérité, parfois sévère de Dieu, est ferme, rigide, solide, plus elle est sûre, plus elle est fiable. Si je monte sur un pont, et que finalement c'est du bois vermoulu, ben je passais au travers et je tombais dans la rivière. Mais si je monte sur un pont où il y a des poutrelles, hein, en acier et tout ça, je vais pouvoir m'y engager en confiance. Je veux dire, au moins c'est solide. C'est logique, hein, tout cela. Ce sont des petites choses qui sont logiques. Je suis en train de tourner, de retourner, parce que moi, j'aime bien prêcher comme ça. C'est peut-être un genre un peu particulier, mais je pense qu'il faut que les choses... Dieu nous amène à ne pas dicter notre intelligence. Il veut que nous réfléchissions aux choses. Et c'est ce que Jésus a fait à travers les paraboles, d'ailleurs. C'est ça, justement, le but. Alors, on s'aperçoit que à ce moment-là, parce que c'est solide, eh bien, c'est fiable, c'est sûr. Tout comme, au contraire, une ossature... tout simplement malade et décalcifié dans un corps, n'inspire pas confiance.
quand on arrive à un certain âge, et puis on se dit, bien, hein, les problèmes des os, hein, il y a toutes sortes de maladies comme cela, hein, l'ostéoporose, je crois, pour les dames, et puis, alors, on fait attention, parce qu'on se dit, mais mes jambes vont fléchir. On est plus sûr de nos jambes. Quand on avait 20 ans, on pouvait faire beaucoup de choses, mais quand on en a 80, 90 ans, on se dit, c'est un petit peu moins solide. Hein. Eh oui, mais c'est comme ça, c'est l'âge. Hein, c'est... Alors, ça n'inspire plus tout à fait la même confiance. La loi est l'ossature pour le peuple de Dieu. Ouais, la parole de Dieu. Maintenant, on va passer à un autre aspect important, me semble-t-il. Si la constitution osseuse de notre corps n'était que fermeté et rigidité, les hommes ne seraient que des automates, on serait des mécaniques. Oui, je fais du rap là. Ah oui, c'est ça. Alors que nos gestes sont... Eh, la grâce, ça existe aussi, hein, dans le langage gestuel. C'est beau, hein? Autrement, on serait un petit peu mécanique, beaucoup mécanique. Et on serait réglé comme des marionnettes, voyez? C'est saccadé, la marionnette, hein, voilà. Sans souplesse, sans douceur, sans tendresse, donc, sans amour. Parce que c'est ça où on veut en venir, hein? Parce que vous savez que le message du Nouveau Testament, c'est aimez-vous les uns les autres. Ça, c'est le message capital. C'est le message cardinal. Aimez-vous les uns les autres. Dieu a créé l'harmonie dans le corps humain en mettant nos os sur nos os de la chair, des muscles, des formes agréables. Et puis, il a mis quelque chose qui est formidable, c'est le sourire. Enfin là, je me force, hein, mais autrement, ça vient naturellement. Hein. Le sourire, c'est beau, hein? Heureusement qu'il y a des sourires dans le monde, hein, dans la vie. Le sourire, c'est le clin d'œil du Seigneur, hein, sur ses créatures. Et il a donné, à ce moment-là, eh bien, l'animation, c'est-à-dire la vie. De même, l'harmonie existe dans le corps de Christ, dans ses institutions divines que nous ne touchons pas. Le monde spirituel n'est pas fait seulement que d'une ossature vigoureuse ou rigoureuse, c'est-à-dire la loi. C'est là l'aspect le plus négatif que rencontrent les chrétiens sur lesquels ils butent et ils s'arrêtent. Ils se disent, ah ben moi, ne me parlez pas de Dieu parce que si je peux pas faire ça, si je peux pas faire ci, c'est ceci, c'est cela, etc. Écoutez, moi, ne me parlez pas de Dieu parce que ça m'intéresse pas. Et il y en a beaucoup qui reculent, hein. Et même quelquefois des gens qui arrivent jusqu'au baptême en disant, bah oui, mais si dans, il y a des lois d'église, parce que je fais la différence entre la loi de Dieu et puis les lois, les commandements des hommes. Tu ne peux pas faire ça, tu ne peux pas faire ci, tu ne peux pas faire ça. Les gens, ils disent, bon, écoutez, c'est pas grave, hein. Moi, je vais pas m'engager, c'est tout, hein. Et vous savez, les gens aujourd'hui, ils ne font plus de cadeaux, hein. ils vont pas se mettre à mal, hein. Ils vont dire, bah si c'est pas ça, ça nous convient pas, hein. Les gens tiennent à leur liberté qui n'en est pas une, hein. De toute façon, on est bien d'accord là-dessus, hein, je ne remets pas les choses en cause. Alors on s'aperçoit que même les chrétiens, quelquefois on voit des chrétiens qui sont tristes, des chrétiens qui sont étouffés, asphyxiés. Pourquoi? Parce que finalement ils n'ont vu que cet aspect des choses. Mais il y a autre chose. La loi sans la grâce, l'obéissance sans l'amour, le service et le zèle sans la joie de l'esprit, quelle tristesse. Je dis quelle tristesse. On peut chanter de deux façons les cantiques. Seigneur, je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Ou alors, je suis heureux parce que Jésus m'a sauvé. Hey, c'est la différence, hein? Non? Ouais. Quelle tristesse que le spectacle d'un squelette qui témoigne de la mort. Et vous savez, Jésus pleurait sur le peuple de Jérusalem, et il pleurait sur la religion des Juifs, hein, parce que ce n'était plus que mort. Vous avez changé les commandements de Dieu avec vos traditions. Vous avez fait ceci et cela, et puis finalement, eh bien, ça n'inspire que, quelque part, que du rejet. Personne n'en veut. Ça témoigne, c'est le témoignage de la mort. Ça témoigne que la vie est partie. Il y avait la vie, mais elle n'est plus là, cette vie. Ôter à la parole de Dieu, ce qui est appelé aussi dans l'Évangile la parole de vie. Ce qui fait tout son charme, c'est-à-dire la grâce, la miséricorde, l'esprit de pardon, l'invitation bienveillante, la compréhension, et elle va aussitôt apparaître comme un corps décharné, qui repousse davantage qu'il n'attire, et nous sommes là, le Seigneur nous a placés pour que nous attirions des âmes, et non pas pour que nous lui repoussions. Par notre aspect, par notre façon de vivre notre vie chrétienne, par notre manière d'être, notre manière de penser, Jésus attirait des foules. Paul avait autour de lui de nombreuses personnes. Et il prêchait l'évangile. Mais pourquoi ils avaient un secret, ces hommes? Certainement. Commandement, menace, règle sur règle, précepte. Je crois que ce n'est pas l'évangile. Excusez, ce n'est pas l'évangile. Pour moi, ce n'est pas l'évangile. Le christianisme légal, certes, solide et charpenté, on peut le dire comme ça, est froid, comme un squelette, parce qu'en principe, les squelettes ne sont pas chauds. Distant, hautain, égocentrique, privé des émotions les plus naturelles, étranger à la joie et même à la peine des autres, mesquin, une machine utilitaire qui peu à peu transforme l'homme, supposé libéré par Christ, en finalement un automate chrétien. C'est pourquoi nous avons lu ce texte. C'est pour la liberté que Christ vous a affranchi. Veillez donc à ne pas vous remettre sous une loi de servitude. C'est pour la liberté que le Seigneur nous donne sa liberté. Il nous l'a donnée. Mais est-ce que nous l'avons bien compris, cette liberté? C'est pas pour faire n'importe quoi. Mais il y a une communication de vie à apporter au monde. Et vous savez que le monde a soif de liberté. C'est pour ça qu'il patauge en toutes sortes de choses, qu'il appelle liberté, mais qui le rendent de plus en plus esclave. Mais il y a une liberté à apporter dans ce monde, un témoignage de liberté. Donc, cet homme qui est supposé être affranchi par Christ devient un objet, une dent impersonnelle dans un vaste engrenage qui tourne sans fin. Ce genre de conception, ce christianisme légal, dépersonnalise la vie, et ce n'est plus qu'une ossature, une dépouille, une charpente vide. Parce que Paul le dit, la lettre tue, mais l'esprit vivifie. L'esprit vivifie. Ce spectacle existe, hélas. Le monde religieux et le monde formaliste vénèrent ces squelettes en raison de leurs antiquités. Si vous allez dans les églises, enfin, ou les temples, ou ceci et cela, et que ce soit quelles que soient les religions, hein, c'est pas très innovant, hein. On va vous montrer des choses qui appartiennent au siècle passé, on va dire, mais c'est formidable, c'est sensationnel, c'est beau, c'est... Ouais. Les monuments, la liturgie, les traditions, les rites, et on va dire, c'est là-dessus que nous vivons. Et vous savez, c'est assez sensible de montrer que quand on fait la démonstration de ces choses, c'est que finalement, la vraie vie est partie. Le jour où on mettra des reliques ici à Saint-Nazaire, hein, peut-être mes os, hein, quand je serai disparu, puis qu'on viendra devant mon catafalque, hein, on dira, bah, il y a quelque chose qui est parti là. C'est mortel ça. Hein. Enfin, je ne me laisserai pas faire. Enfin, j'aurais peut-être pas le droit à dire quelque chose d'une façon. Tout est règle. Et tout est réglé à la lettre, tout simplement. La réelle valeur d'une ossature se révèle dans la mesure où elle supporte un organisme vivant et qu'elle est porteuse de vie, sinon elle n'est plus qu'un sinistre vestige qui témoigne que la vie est partie depuis longtemps. Ouais. Les monuments restent, mais l'esprit est parti. Ça, on le sait. Mais il n'y a plus de vie de l'esprit. Et que reste-t-il? Que reste-t-il? Servitude ou liberté? Encore une question. Dans Corinthiens, 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 17, écoutez bien cette parole, c'est Paul qui le dit. Or, là où est l'esprit, là est la servitude. Là est la liberté. Ouais. Là où est l'esprit, là est la liberté. Alors, pour tous les chrétiens enchaînés, les chrétiens timorés, les chrétiens frustrés, les chrétiens recroquevillés, les chrétiens asphyxiés par la tyrannie de règles légales, même bibliques, voire évangéliques, il faut savoir que Dieu a donné une charpente à la vie spirituelle, c'est-à-dire l'écriture, la loi, les principes, dont le caractère rigide n'est pas fait pour nous accaparer ou nous accabler, mais pour nous libérer, dans la mesure où il y a la vie de l'esprit. Même image, la charpente rigide que nous sommes, que sont nos os dans notre corps, est une qualité libératrice de maintien, d'épanouissement, et non l'inverse. Dieu n'a pas fait pour que nous soyons coincés dans notre cœur et que notre corps, on tourne la tête, on la tourne pas à 180 degrés, pas encore. Mais c'est pas une tourelle de char. Mais toujours est-il que quelque part, on a une liberté, et Dieu nous a donné tout cela, parce qu'il y a des articulations. parce qu'il y a là quelque chose que l'on appelle la vie, tout simplement. Et ça, il faut bien le comprendre. La pesanteur écrasante de la loi est avant tout un état d'esprit appelé légalisme, il faut le dire. Et le chrétien ne doit pas se situer dans le légalisme ni dans le libéralisme, il doit se situer dans l'esprit de l'Évangile. C'est-à-dire juste au milieu, le point d'orgue. C'est précisément ce qui empêche les cartilages de l'ossature spirituelle de fonctionner normalement. Et ça, le légalisme, c'est sûr que ça coince. Ça, c'est clair. 32 ans de ministère, je l'ai vu déjà. Et je crois que Dieu nous appelle à l'équilibre, frères et sœurs. Ouais. Et que des gens ont passé, quelquefois, des chrétiens ont passé toute leur vie dans la culpabilité, dans toutes sortes de choses qui n'étaient pas réelles, qui n'étaient pas vraies, en raison peut-être de discours, en raison de théologie, en raison de toutes sortes de doctrines. Mais c'est pas ça l'esprit de l'Évangile. Nous sommes libérés. Mais cette libération, c'est Dieu qui va la faire. Et peut-être justement, ce recroquevillement dans le légalisme, c'est parce que nous avons peur du péché. C'est que nous avons peur de ceci, et nous avons peur de Dieu. Et nous avons peur du diable aussi, qui nous attend au virage. Ça se caractérise par la crainte. Un état d'esprit appelé légalisme qui se caractérise par la crainte. Dans 1 Jean chapitre 4, verset 18, il est dit ceci, que je retrouve le texte. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Eh oui. C'est la dimension de l'amour qui nous manque pour pouvoir nous articuler. C'est l'articulation, c'est la vie, c'est le mouvement, c'est l'être. La crainte et la culpabilité, c'est précisément ce qui empêche les cartilages, finalement, de fonctionner. Et ça donne des rhumatismes. Et il y a beaucoup de frères et des sœurs qui ont des rhumatismes, de l'arthrite, de l'arthrose. Moi, j'en ai un petit peu d'arthrose aussi. Inflammation douloureuse, c'est l'inflammation douloureuse de la loi. Nos os ne sont plus aussi flexibles. Alors le mal, parce que c'est un mal, il lui faut un remède. Et ce remède, il est dans la même épître. Dans 1 Jean chapitre 5, il est dit ceci, on va le lire, versets 2, 3 et 4. 2, 3 et 4. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Vous voyez, hein, c'est pas le contraire. Hein. Et ses commandements ne sont pas pénibles. Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. C'est notre foi. Ce n'est pas la loi. C'est notre foi. L'amour bannit la crainte. Il nous est rappelé que ces commandements ne sont pas pénibles. Pourquoi sont-ils pénibles pour certains chrétiens? La victoire de la foi. C'est, en un mot que vous connaissez bien, c'est l'abandon entre les mains de Dieu. Tant que je lutte, on a chanté ce cantique, tu n'en peux plus et tu vois bien que tu fais des efforts et que ça ne sert à rien. Et qu'est-ce qu'il nous est demandé après? Ben, fais-lui confiance, tout simplement. Je m'abandonne, je capitule devant Dieu. Je veux me battre pour ceci, pour cela. Je mène le combat tous les jours, jour et nuit. Et je suis épousé. Et là, il y a souvent des dépressions spirituelles chez les enfants de Dieu. L'abandon. Aimer, c'est s'abandonner. Se donner sans restriction et sans crainte, parce que nous n'avons pas à avoir peur de Dieu. Il n'est pas venu contre nous, il est venu pour nous. Et en plus, il est avec nous. Et je dirais même mieux, il est en nous. La compréhension de ce principe est le secret de la vraie liberté. Une vie merveilleuse, une vie meilleure, une vie plus riche, une vie chrétienne victorieuse, et c'est une vie de plénitude. Ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude, nous rappelle Paul. Dieu a donné ses lois non dans son intérêt, mais par amour pour nous. Pourquoi Dieu a-t-il fait les choses comme ça? Pour se glorifier lui-même? Non, c'est pour que nous soyons heureux, pour que nous soyons bénis, que nous soyons épanouis, que nous soyons libérés, libres, et qu'à ce moment-là, eh bien, nous allons répandre cette grâce de Dieu autour de nous. Je prends les paroles de Jésus quand il dit « Le sabbat a été fait pour l'homme. » Il n'a pas été fait pour Dieu, mais Dieu, le sabbat, c'est vrai, c'est le jour de Dieu. Mais il a été fait pour que l'homme se repose et qu'il pense à son Dieu ce jour-là. C'est ce que Jésus dit. Le sabbat a été fait pour l'homme, pour lui spécialement, et non l'homme pour le sabbat. Il n'a pas fabriqué l'homme pour dire, eh bien tiens, voilà, dans ce jour-là, je vais avoir une créature qui va m'adorer. C'est pas pour ça que Dieu a fait les choses. Quand Jésus nous dit dans Jean chapitre 8, au verset 34 ou 36, je ne sais plus, mais enfin ça va revenir, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Et c'est cette vérité que nous partageons ce matin, pour qu'elle nous rende libres. C'est pour nous et non pas contre nous. Loi d'amour bien appliquée avec l'aide du Saint-Esprit et le gage d'une bonne santé spirituelle, de la joie et de la paix. Et moi, c'est ce que je veux voir dans nos églises. C'est ça. Que lorsque nous avons des réunions de prière, eh bien que tout le monde puisse s'exprimer en disant « Seigneur, je brûle pour toi ». Que dans nos réunions de culte, nous puissions dire « Mais Seigneur, merci, tu es merveilleux. Tu as fait des choses extraordinaires dans ma vie, ne serait-ce qu'au regard de cette semaine qui vient de s'écouler. N'avez-vous pas remarqué tout ce que Dieu a fait ? Chaque matin, au moment où vous êtes levé, c'est encore un jour nouveau que Dieu nous a donné. Il nous a donné la vie. Il nous a donné sa grâce. Il nous a donné de contempler ce merveilleux spectacle de la nature qu'il a créé. Alors il y a du bien, il y a du mal, pas de chez Dieu, mais il y a du bien et du mal dans le monde. Il y a du laid et du beau, il y a tout. Mais moi, quand je regarde avec la perspective des yeux de Dieu, à ce moment-là, je dis, Seigneur, oh, la vie est triste, c'est terrible, c'est terrible, c'est terrible. Oh, j'y arriverai pas. Non, je dis, Seigneur, c'est vrai que tout ça existe. Mais Seigneur, je regarde avec les yeux que tu m'as donnés et je bénis ton nom. Je te remercie, Seigneur, tu es une merveille. Alors, mes frères et sœurs, pourquoi le contraire dans nos églises ? Pourquoi cette tristesse ? Pourquoi ? On a tous des soucis familiaux. On a tous des soucis peut-être économiques. On a tous des soucis de ceci et cela. C'est vrai. Mais le Seigneur nous a dit, déposez vos fardeaux, parce que lui-même prend soin de nous. Ça, c'est la foi. Pourquoi le contraire ? Pourquoi la tristesse ? Pourquoi la médiocrité ? Pourquoi quelquefois des regards fermés ? Ou, eh bien, on est absent ? Pourquoi la servilité ? Où rien n'est naturel et tout est forcé ? Si nous venons au culte en disant, bah oui, mais si je viens pas au culte, pasteur, qu'est-ce qu'il va penser ? Bon, moi, je pense rien. Hein. Parce que je crois que chacun travaille pour lui-même. Hein, et que chacun doit développer sa vie spirituelle par rapport au Seigneur. C'est pas le pasteur qui est la règle. Hein. Non, c'est le Seigneur, lui, qui, finalement, est le Seigneur de tout. Et si je viens en disant, ben voilà, je me traîne. Mais vous savez, on vient souvent en se traînant, mais quand on repart, on est vivifié. C'est ça la différence. C'est ça, justement, ce qu'il faut comprendre. Parce qu'il y en a un qui va nous empêcher, justement, qui va faire que nos os se coincent. Quand on se réveille, quelquefois, on a mal. Hein? Oh là là, Seigneur, ça tire. Mais quand on va revenir, on va repartir guéri. On va repartir fortifié, on va repartir vitalisé. C'est ça ce qui est extraordinaire. Et ça aussi, c'est à comprendre. Une constatation chez les Galates. Quand Paul leur écrit ceci, vous couriez bien. Vous connaissez le texte? Mais qui vous a arrêté? Et je dis que moi, ce qui est formidable, c'est que j'ai vu, c'est vrai, des dizaines et des dizaines de gens se convertir par la grâce du Seigneur. On les a vus partir. Ils partaient en flèche. Ouais, il y en a qui sont restés, hein, quand même. Hey, on aurait bien voulu garder tout le monde. Hein. Ils sont partis, mais alors, formidable. Ils avaient découvert la parole de l'Évangile, la personne de Jésus. Ils avaient fait des expériences de guérison, de transformation de vie, de pardon des péchés. Ils chantaient des louanges de Dieu. Et à bout d'un certain temps, ça s'est enrayé. Boum, 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 boum. Puis ils ont disparu. Comme ça. Qui vous a arrêté ? Vous avez commencé dans la joie, frères et sœurs, continuez dans la joie. Vous avez commencé dans l'esprit, n'allez pas finir dans la chair. Avec... enfin, je parle d'une manière compréhensible, et puis je parle avec des onomatopées, hein, vous avez compris. Hein. Voilà. Constatation chez les Galates, mais qui vous a arrêté ? Cette influence ne vient pas de celui qui vous a appelé. Et moi, je peux vous dire que, j'en suis convaincu, hein, le légalisme, ça vient pas de Dieu. Non, c'est parce que c'est un état d'esprit. Le libéralisme à outrance qui nous fait plonger dans le péché et tripoter le péché, ça ne vient pas du Seigneur non plus. L'un ou l'autre. Vous savez, les extrêmes sont très mauvaises dans le monde. Les extrêmes sont très mauvaises, en politique, en social, tout ce que vous voudrez. Dieu nous dit, je veux un peuple d'équilibre, qui marche au milieu de la route, et pas sur les bas-côtés. En d'autres termes, Paul pouvait dire aux Galates, mais vous vous êtes rouillés, si on peut dire ça comme ça, vous vous êtes ankylosés, par une mauvaise compréhension de la loi de Dieu qui a fait que vous avez perdu votre souplesse, votre élasticité, et vous êtes devenu spirituellement pesant. C'était le sacrificateur Élie, je dis pas le prophète, qui était devenu pesant. Il est tombé à la renverse, il n'a pas pu se relever, il en est mort.
Eh bien, quelquefois, peut-être ça peut arriver aussi, de devenir tellement pesant spirituellement que on ne peut plus bouger. Dieu nous a donné le mouvement de la vie. Là où le spirituel devient naturel, et Dieu voudrait que ce spirituel devienne naturel, ouais, que ce soit naturel pour nous, et ça peut se saisir que par la foi. Quand la loi de Dieu devient une ossature rouillée, il en résulte toujours des fractures, parce que on force dessus. Et quelquefois, eh bien, on voit des frères et des sœurs qui, malgré tout, ils savent qu'ils vont avoir du mal à y arriver, mais ils forcent quand même. Ils y vont, mais ils vont casser les os. Ils vont se casser à un moment donné. Vous savez, il y a des choses que nous demandons aux hommes, que les hommes demandent aux autres hommes, que Dieu ne nous a jamais demandé. Moi, j'en suis convaincu. Ah oui, ça c'est clair. Mais nous nous donnons une loi nous-mêmes, quelquefois, impérative, intangible, inflexible. Et souvent, quand nous la donnons à nous-mêmes, nous l'appliquons aussi aux autres. Alors moi, je ne fais aucun inconvénient. Si les gens veulent vivre comme ça, c'est leur problème. Et qu'ils ne l'appliquent pas aux autres. Parce que ça devient une dictature à ce moment-là. Donc, on s'aperçoit qu'à ce moment-là, eh bien, ça se rouille. Et quand on force dessus, ça fait des fractures. Et on a vu quelquefois des gens qui sont allés très très loin, pasteurs y compris, hein, qui quelquefois sont allés très loin, très très fort et tout ça, mais à un moment donné, ils sont arrivés à une fracture. Puis, ils ont tellement bien cassé qu'ils ne sont même plus chrétiens aujourd'hui, dans certains cas. Quand on force dessus, on est capable à ce moment-là, quand il y a fracture, d'immobiliser le corps tout entier. Et certains ne peuvent plus avancer. Ils boitent. La lettre tue, mais l'esprit vivifie. Une conclusion sans commentaire, et je vous donne simplement à le lire quand vous serez chez vous, Ézéchiel chapitre 37, versets 1 à 6. C'est la vision des ossements. Comment ça s'est passé là? Hein? Il y avait des ossements. Ils étaient comment? Desséchés, dans un désert. Et Dieu est venu pour leur donner de la chair. Des nerfs. Il nous a dit que les nerfs ont cru. Et ensuite, il n'y avait toujours pas de vie. Mais à partir du moment où ils ont pu se lever, ces ossements, c'est quand l'esprit est descendu. Vous avez remarqué, Dieu a envoyé son esprit et ça a été une armée. Voilà la vision d'Israël. Mais voilà la vision aussi du peuple de Dieu. Veillons toujours à ne pas perdre la parole de Dieu. À ne pas prendre la parole de Dieu pour ce qu'elle n'est pas, mais de la vivre avec l'huile de l'esprit. Vous savez que l'huile, ça graisse, hein? En principe. Alors, l'esprit, oui, mais avec de l'huile. Pour que les articulations fonctionnent. Et à ce moment-là, elle restera vivante. Elle restera tonifiante. Elle restera épanouissante. Et elle, frères et sœurs, elle nous libérera. Que Dieu nous bénisse ce matin. Que Dieu nous donne sa grâce. Et vivons dans la vie de l'esprit. Amen. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier pour ta parole. C'est ta parole et tu as voulu nous donner encore, selon les exemples même de la nature, de la façon dont tu nous as constitués, dont tu nous as créés. Nous croyons, Seigneur, que pour nous parler de la rédemption, tu as voulu aussi trouver des exemples dans ta création. Et la création, Seigneur, c'est ce que nous sommes en tant qu'hommes, avec, c'est vrai, un corps, avec des os, avec des articulations, avec la vie, avec une animation. Mais Seigneur, spirituellement, tu nous dis la même chose. Tu nous dis que tu nous as donné ta parole parce qu'elle est la vie, elle est juste, elle est sainte, elle est spirituelle. Mais moi, comme dit Paul, moi, je suis prisonnier de mon péché, je suis prisonnier de ma nature. Alors Seigneur, c'est vrai que je peux m'enfermer dans quelque chose de rigide et d'intangible, mais je peux aussi me libérer, puisque tu me dis que, en effet, à partir du moment où nous nous approchons de toi, eh bien, nous recevrons la vérité et la vérité nous affranchira. Alors donne-nous ta grâce, s'il te plaît, Seigneur. Tu vois, Père éternel, que nous avons tous des tempéraments et des caractères différents. Il y a des forts et il y a des faibles. Il y a de ceux qui veulent et de ceux qui voudraient bien mais qui ne peuvent pas, pour différentes raisons. Il y a des gens, Seigneur, qui sont arrêtés parce qu'ils ont des problèmes intérieurs. Il y a, Seigneur, des essoufflés au milieu de nous. Il y a des gens qui ont été tellement meurtris par la vie que, Seigneur, ils auraient besoin d'un ballon d'oxygène, d'un souffle nouveau. Alors, Seigneur, je te rends grâce et je te remercie. S'il te plaît, Seigneur, il y a un mot qui peut résumer à tout cela. Donne-nous et donne-moi de t'aimer, Seigneur, par-dessus tout. Et si je t'aime par-dessus tout, à ce moment-là, eh bien, tu me rendras capable de choses extraordinaires. Quand David dit « Avec Dieu, nous ferons des exploits », c'est pas seulement avec la foi, c'est vrai que c'est la foi, mais la foi dans l'amour, et l'amour associé avec la foi. Alors à ce moment-là, je serai capable d'aimer aussi mes frères et mes sœurs, et je serai capable d'aimer le monde, et de lui donner une idée qui va pas le repousser, mais une idée qui va l'attirer. Et nous voulons te rendre grâce,
et te remercier, Seigneur, dans le nom de Jésus.